VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 16 janvier 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Le président élu de Gambie, Adama Barrow, au Sénégal jusqu'à son investiture jeudi prochain.
Au Mali, des présumés terroristes qui voulaient attaquer le sommet de Bamako ont été arrêtés dans le nord du pays.
En République démocratique du Congo, les autorités signalent dans l'est du pays des rebelles de l'ex-M23 qui étaient censés rester en Ouganda.
Le chef de la CIA a conseillé hier à Donald Trump de se discipliner au nom de la sécurité des États-Unis.
Plus de 70 pays ont solennellement réitéré hier à Paris leur engagement en faveur de deux États, israéliens et palestiniens.
Et n'oubliez pas notre journal de la CAN au Gabon, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Adama Barrow, président élu de la Gambie, a été accueilli hier au Sénégal voisin jusqu'à son investiture, officiellement prévue jeudi. Samedi, un mini-sommet sur la crise gambienne s'est tenu à Bamako, en marge du 27e sommet Afrique-France. Le président Yahya Jammeh refuse, on le sait, de céder le pouvoir après avoir félicité M. Barrow pour sa victoire. Le point depuis Dakar avec Seydina Abagay.
Le président élu de la Gambie est arrivé à Dakar ce dimanche. Adama Barrow va rester au Sénégal jusqu'à son investiture prévue le 19 janvier prochain. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a accepté d'accueillir le président élu de la Gambie sur demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en marge du sommet France-Afrique à Bamako. La CEDEAO poursuit ses efforts pour un transfert pacifique du pouvoir en tentant de convaincre Yahya Jammeh de respecter le verdict des urnes. L'Union africaine, qui soutient cette médiation, indique qu'à compter du 19 janvier, elle reconnaîtra Adama Barrow comme président légitime. Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, conteste les résultats de la présidentielle du 1er décembre, au lendemain de laquelle il avait pourtant reconnu sa défaite et félicité son adversaire Adama Barrow. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Seydina Abagay.
Au Mali, arrestation dans le nord du pays de présumés terroristes qui voulaient attaquer le sommet de Bamako. Ils ont été arrêtés peu avant le sommet Afrique-France, a appris dimanche l'AFP de sources sécuritaires maliennes et occidentales. Elles n'ont pas précisé le nombre de personnes arrêtées. Ces arrestations ont permis de procéder à d'autres arrestations de suspects ici à Bamako et de découvrir que des djihadistes emprisonnés organisaient de leur côté un plan d'évasion, a ajouté la même source malienne. Nous reviendrons sur le bilan, cette fois-ci du sommet de Bamako, dans la seconde partie de cette édition.
En République démocratique du Congo, quelques 200 ex-rebelles congolais du mouvement du 23 mars, le M23, ont pénétré dimanche dans Ishasha, une localité du Nord Kivu, après 3 ans d'exil en Ouganda où ils étaient réfugiés. C'est ce qu'ont affirmé les autorités de Kinshasa qui ont signalé des affrontements avec les FRDC, mais Kampala a démenti ces informations. Le chef militaire du M23, l'ex-général des FRDC, Sultani Makenga, serait, selon Kinshasa, à la tête de l'un des 2 bataillons signalés à Ishasha.
Toujours en République démocratique du Congo, un opposant accusé de haute trahison est rentré hier à Kinshasa, 15 jours après la signature de l'accord de co-gestion de la transition entre le pouvoir et l'opposition. Le point avec Idriss Fall.
Roger Lumbala, président du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, a regagné Kinshasa hier à bord d'un avion de ligne Ethiopian Airlines. En 2013, les autorités l'avaient accusé de haute trahison et de complicité avec la rébellion du M23 vaincue en novembre 2013. Monsieur Lumbala a été signalé en Ouganda et au Rwanda. Il est donc le premier bénéficiaire des mesures d'abandon des poursuites judiciaires dans le cadre des pourparlers inclusif sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Lors de ces négociations à Kinshasa, le rassemblement, une coalition de l'opposition derrière Étienne Tshisekedi, avait demandé aux autorités de faire un geste de décrispation. Vendredi, l'épiscopat congolais s'est inquiété du retard pris dans la libération des prisonniers politiques et d'opinion.
Le Soudan a prolongé de 6 mois le cessez-le-feu en vigueur dans les États en conflit du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'agence de presse officielle soudanaise a rapporté que le gouvernement présidé par le président Omar El-Béchi a décidé de prolonger le cessez-le-feu de 6 mois. En octobre, M. Béchi avait déjà prolongé ce cessez-le-feu, décrété unilatéralement en juin dans ces 3 régions, puis il avait de nouveau prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier. Les violences au Darfour ont éclaté en 2003. Des rebelles issus de minorités ethniques se sont soulevés contre le gouvernement de Khartoum, dominé par des Arabes. Des rébellions similaires ont eu lieu dans les États du Nil Bleu et du Kordofan au sud, après la sécession du Soudan du Sud en 2011. Les combats entre forces gouvernementales et rebelles ont fait des milliers de morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le chef de la CIA a conseillé hier au président élu Donald Trump de se discipliner au nom de la sécurité des États-Unis. Pour sa part, le futur président estime que les médias et les agences de renseignement lui devaient des excuses. À 4 jours de son investiture, M. Trump peine à dissiper les controverses. À part la Russie et les services de renseignement, il est également critiqué après avoir attaqué John Lewis, une figure historique du mouvement des droits civiques, en plein week-end de commémoration de Martin Luther King Jr., le leader assassiné du mouvement des droits civiques. Une 20aine de députés démocrates, dont M. Lewis, ont annoncé qu'ils n'assisteraient pas à la cérémonie d'investiture, doutant ouvertement de la légitimité de M. Trump.
Plus de 70 pays ont solennellement réitéré hier leur engagement en faveur de deux États, israéliens et palestiniens. Ils ont aussi averti qu'ils ne reconnaîtraient pas d'action unilatérale qui menacerait une solution négociée, particulièrement sur la question des frontières, les réfugiés ou le statut de Jérusalem.
3 Bahreïnis de confession chiite condamnés à mort pour un attentat à la bombe qui avait coûté la vie à 3 policiers le 3 mars 2014 ont été exécutés hier à Bahreïn. Ces exécutions ont suscité des manifestations et ravivé les tensions entre la majorité chiite et le pouvoir sunnite. Dans un communiqué commun, 4 organisations de défense des droits de l'homme ont condamné les exécutions autorisées par le roi Hamad après des procès qualifié d'injuste. Voilà pour ce journal. Maintenant, le journal de la CAN avec Nicolas Pinault sur VO Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. La 31e Coupe d'Afrique des Nations a donc démarré depuis samedi et déjà quelques surprises. Après le Gabon, pays organisateur accroché par la Guinée-Bissau en ouverture, c'est au tour de l'Algérie d'avoir évité la déroute hier à Franceville. Sans un Mahrez en grande forme, auteur d'un doublé, les Fennecs auraient dû s'incliner face aux Warriors zimbabwéens. Le score final, 2-2. Un score qui place les deux équipes deuxième ex aequo ce matin dans ce groupe B, puisque le Sénégal occupe seul la première place après sa victoire convaincante 2-0 face à la Tunisie. Compte rendu de ce match avec l'envoyé spécial de VOA Afrique sur place, Amdinsi.
Les Lions ont souffert avant de venir à bout des Aigles de Carthage. Une équipe nationale du Sénégal très réaliste qui s'est imposée grâce à des coups de pied arrêtés. C'est Sadio Mané qui a ouvert le score sur penalty à la 9e minute. Il sera suivi par Serigne Moudou Karambo sur un corner. Le puissant défenseur sénégalais a mis sa tête pour tromper le gardien de but tunisien. Pourtant, les joueurs de Casper Zack sont mieux rentrés dans le match que ceux d'Alou Cissé. Les Lions de la Teranga ont eu du mal à poser le ballon et construire des actions, mais l'essentiel était de gagner et les Lions l'ont fait. En tout cas, c'est l'avis du coach Alou Cissé.
La finalité du football de haut niveau, ce n'est pas de dominer, c'est de gagner. Aujourd'hui, vous pouvez être d'accord, oui, la Tunisie nous a dominé par moment. Je dis bien par moment. Parce qu'on a eu aussi, nous, des moments quand même qui ont été très bien. Mais le résultat final, c'est que le Sénégal a gagné 2-0. Et je crois que c'est ce qui est important. Donc.
Avec cette victoire, les Lions mettent fin à cette malédiction qui l'empêchait de battre les Aigles de Carthage en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Franceville, Amédine Sy, VO Afrique.
Et place ce lundi à l'entrée en lice du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire qui affronte le Togo. Les éléphants ivoiriens qui n'ont plus rien à voir avec l'équipe victorieuse de 2015, comme le reconnaît le sélectionneur Michel Dussuyer.
Depuis plus d'un an, je m'attelle à travailler pour également renouveler ce groupe. Aujourd'hui, il y a Sur l'édition 2015, sur 23 joueurs, il y a seulement 10 joueurs qui ont participé à la précédente édition. Ça fait plus de 50% de renouvellement, c'est beaucoup. Donc on se doit d'avoir des ambitions. Depuis le départ, l'objectif, c'est de défendre le titre.
Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. En face, les éperviers togolais ne sont pas favoris et le savent. Un statut d'outsider reconnu par le sélectionneur Claude Leroy.
On va essayer de bien jouer, même si on est lucide et on sait que la Côte d'Ivoire, la RDC et le Maroc sont à un niveau au-dessus de nous. Mais il y a toujours des surprises.
Claude Leroy, le sélectionneur du Togo. L'entrée en lice du tenant du trophée a aussi inspiré notre consultant football. Tout de suite, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. L'entrée en lice de la Côte d'Ivoire, championne en titre, et le fait marquant de la troisième journée, un indicateur qui permet de jauger une des potentielles locomotives de la compétition et de situer ses ambitions afin de réajuster la liste des favoris. À cet exercice, par le passé, le Soudan de 70, le Congo de 1972 ou la Zambie de 2012 étaient de mauvais élèves. Seuls l'Égypte, le Ghana et le Cameroun ont tenu leur rang. Pour cette année, il est certain qu'avec l'européanisation du football mondial, les regroupements tardifs de joueurs opérant en majorité dans les championnats relevés du vieux continent ne permettent pas de juger d'entrée les sélections africaines les plus concernées, comme la Côte d'Ivoire. À demain.
Autre choc du groupe C ce lundi, le Maroc face à la République démocratique du Congo. Le double champion d'Afrique en titre, Hervé Renard, qui est désormais à la tête des Lions de l'Atlas, n'aura pas la tâche facile. Lui qui doit composer avec une cascade de blessures et de forfaits de dernière minute. Éclairage d'Amine Birouk à OIM pour VOA Afrique.
Ce recadrage parfaitement maîtrisé par le double champion d'Afrique 2012 et 2015 oblige ce dernier à réussir une belle performance ce lundi devant la RDC. L'adversaire qui a également beaucoup à se faire pardonner, notamment une grève des joueurs à 3 jours du démarrage de la CAN. Une CAN que les Léopards convoitent et où ils ont souvent brillé, comme le prouve leur 3e place il y a 2 ans en Guinée équatoriale. Depuis OIM au Gabon, Amine Birouk pour VOA.
En face, les Congolais 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations tenteront de faire oublier l'épisode de la grève qui a perturbé l'arrivée des Léopards à la CAN au Gabon. Une maladresse reconnue par le capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Moulumbu.
C'est vrai qu'il y a une vidéo qui est sortie et on va dire qu'on n'en est pas fier. Mais le tout, c'était de, peut-être de revendiquer certaines choses. Mais ça, c'est des choses hors foot, quoi. Hors foot. Et lorsqu'on rentre sur le terrain, chez nous, on appelle une motivation esprit. Ça veut dire qu'on a l'esprit de conquérant. Donc demain, vraiment, vous allez voir 11 joueurs sur le terrain conquérant et... le public derrière nous et pour ce match-là.
Youssouf Moulumbu au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa. À suivre demain, le retour en Coupe d'Afrique des Nations des Pharaons d'Égypte qui seront opposés dans le groupe D au Mali à Port-Gentil. Les précisions de Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Mali-Égypte, un match qui promet de fortes émotions. Victorieux du Gabon à la CAN 2012, les aigles maliens arrivent à cette CAN 2017 en valeur connue des Gabonais. Ils ont terminé leur préparation à Marrakech au Maroc, où ils s'étaient inclinés 2-1 face au Burkina Faso. Dans leur poule si difficile, ils comptent sur des joueurs comme l'attaquant Adama Traoré du tout-puissant Mazembe. Les aigles, il faut le dire, sont un peu chez eux à Port-Gentil, où l'importante communauté malienne les portera à bout de bras. Pour leur part, les pharaons égyptiens renouent avec la CAN après une absence remarquée aux 3 dernières éditions. 23 participations en phase finale et 7 sacres au palmarès, les Égyptiens ambitionnent de renouer avec leur gloire d'antan. Leur nouveau cru, un savant dosage de joueurs locaux et expatriés, s'appuiera sur le leadership de Mohamed Salah, le sociétaire de l'AS Roma. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Et rendez-vous ce soir pour un nouveau journal de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier notre page Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Et nous commençons par la Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire veut devenir en 2020 la première destination touristique ouest-africaine. Le secteur touristique est en pleine croissance dans le pays, mais des problèmes persistent sur l'industrie hôtelière et touristique. Seuls 263 établissements disposent d'un acte administratif sur 2142 visités. Shelter Afrique souhaite augmenter son capital de 90 millions de dollars. Cette institution panafricaine spécialisée dans le financement des projets immobiliers tient son assemblée générale extraordinaire fin janvier 2017. 44 États africains, la Banque africaine de développement et Africa Reinsurance, actionnaires d'une part et de l'autre, l'équipe dirigeante de l'institution risque de ne pas s'entendre à cause de défaillances dans les comptes de Shelter Afrique. Addis Abeba ouvre les portes de certaines entreprises publiques aux capitaux étrangers, réfutant un besoin de financement. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn a dit que cette réforme vise à moderniser le système industriel. Il s'agit surtout de l'apport technologique, du savoir-faire et des capacités de gestion, a-t-il affirmé. Toutefois, il n'a pas indiqué les secteurs concernés. Les étrangers convoitent principalement les télécommunications et les banques.
En Côte d'Ivoire, après des mutineries dans plusieurs villes, le ministre de la Défense est parvenu tard vendredi à un accord à Boaké, deuxième ville du pays. En principe, l'application de l'accord doit démarrer ce lundi par le versement d'une partie de l'argent que réclamaient les mutins. Mais que sait-on de cet accord qui a permis aux soldats ivoiriens de retourner dans les casernes? Idriss Fall a joint à Boaké notre confrère Siriki Barrow de la radio Albayane, partenaire de VOA Afrique.
L'accord qui a été passé donc entre les mutins et le gouvernement, personne ne sait quel est le contenu de cet accord, mais certains mutins nous ont appris que l'accord qui a été trouvé ferait état que le gouvernement ivoirien s'engage à remettre 12 millions de francs CFA aux mutins, donc 5 millions qui seront versés ce lundi, aujourd'hui donc, et les 7 autres millions seront ventilés sur toute l'année.
Mais est-ce qu'on sait qui était à la tête de cette mutinerie?
Honnêtement, on ne sait pas vraiment parce que le vendredi dernier, lors des négociations avec le ministre en charge de la Défense, il y avait plusieurs délégations venues de toutes les régions militaires de la Côte d'Ivoire et chacun était venu avec une position parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils n'avaient pas tous les mêmes revendications et c'est ce qui a aussi fait traîner les négociations en longueur.
Mais donner de l'argent aux mutins, n'est-ce pas ouvrir une boîte de Pandore pour les autres corps constitués?
Et tout à fait, et nous avons discuté hier avec quelques autres personnes qui ne sont pas forcément des militaires, qui sont des gardes pénitentiaires et autres, qui ils nous ont affirmé avoir reçu des messages de certains de leurs collègues comme quoi il fallait qu'eux aussi se mettent à revendiquer parce que les soldats sont sortis avec des armes et ont obtenu gain de cause. Et il fallait eux aussi qu'ils se mettent à manifester pour avoir aussi la revalorisation de leurs conditions de travail, de leurs salaires. Au nom de ceux-là, on peut citer les gardes pénitentiaires, la douane et plusieurs autres corporations.
Et tout ceci se passe au moment où les fonctionnaires sont en grève aussi.
Et tout à fait, parce que la grève des fonctionnaires, elle a été reconduite encore pour 5 jours à compter d'aujourd'hui lundi.
C'était de Boaké, notre confrère Siriki Barrow de la radio Albayane, partenaire de VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Mali, plus de 37 chefs d'État et de gouvernement ont participé au sommet Afrique-France qui vient de s'achever à Bamako. Pour le président français François Hollande, c'était aussi l'occasion de faire ses adieux à ses pairs africains, lui qui a décidé de faire la guerre aux djihadistes au Mali en janvier 2013. Pour les Maliens, en revanche, le bilan de cette opération militaire reste mitigé à cause de la région de Kidal qui n'est toujours pas sous contrôle des autorités maliennes. De Bamako, un bilan du sommet avec Kassim Traoré.
Les participants au sommet Afrique-France de Bamako garderont longtemps les propos d'Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, et de François Hollande. Les deux hommes se sont congratulés à l'ouverture des travaux.
De tous les chefs d'État français, il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal.
Cher président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer à mon égard. Il y a peu d'exemples au monde où un pays déchiré, menacé par le terrorisme, oui, il y a peu d'exemples au monde que ce même pays ait été capable de se redresser aussi vite.
Les Maliens sont reconnaissants envers la France, même si l'intervention militaire lancée au Mali par François Hollande a un goût d'inachevé.
Hollande est venu dire au revoir aux Maliens. Il a échoué partout. Ibeka lui a dit ce qu'il veut entendre. Sinon, pour les Maliens, c'est la France qui a le problème. Il dit que le Mali va recouvrir son intégrité territoriale. On verra bien.
Il a fait de son mieux. Nous sommes reconnaissants. Parce que c'est grâce à lui que les djihadistes ne sont pas arrivés à Bamako. Mais dès avril 2013 à nos jours, nous ne comprenons plus la position de François Hollande. Kidal est fermé aux militaires maliens. Aucun officiel malien ne peut aller à Kidal.
On pensait que la France était la solution, mais aujourd'hui, la France de Hollande est devenue un problème pour le Mali. La force Barkhane n'est autre qu'une force d'interposition qui empêche l'armée malienne d'aller à Kidal.
Pour les organisateurs du contre-sommet, la rencontre des chefs d'État n'est pas démocratique. Elle ne prend pas en compte les aspirations du peuple. Massa Kone, activiste malien.
Parce qu'ils ont fermé hermétiquement la porte et nous, on a ouvert la porte. Il y a des gens qui sont venus le jour même de l'ouverture. Ils ont pris part, ils étaient au centre. D'autres sont venus le deuxième jour et d'autres sont venus aujourd'hui. On dit, c'est ouvert, venez sur le débat. C'est un débat d'idées. Mais pourquoi les fermer? Vous êtes pour le peuple, vous ne devrez pas les fermer. Maintenant, si on était les chefs d'État, on allait écouter, on allait nous laisser quand même un intervalle pour aller les remettre notre déclaration, mais signe quand même de la démocratie. Ils doivent le faire. Et je vais dire aussi à l'encontre de ce sommet aussi de tenir compte de nos déclarations, de ce que le peuple a dit.
En marge du sommet de Bamako, plus de 400 opérateurs économiques africains et français et leurs partenaires étaient en conclave. Mamadou Senssi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM.
Je profite de cet espace pour vous exprimer, ou plutôt vous réitérer, notre besoin de plus de sécurisation de nos investissements et de protection de nos entreprises pour qu'elles se développent pleinement. Le monde de l'entreprise a besoin de quiétude et d'espace de dialogue. Il va sans dire que les sphères publiques, privées et de la société civile, je vais dire par là les organisations socio-professionnelles comme les syndicats qui représentent toutes trois les composantes d'une économie.
Les chefs d'État et de gouvernement ont salué la tenue en marge de leurs travaux du forum JAR et développement, du forum des jeunes ainsi que du forum économique. Ils disent avoir pris bonne note des recommandations ici de ces forums. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement va organiser cette année une série d'élections pour renouveler l'Assemblée nationale et le Sénat et aussi élire les maires de communes. Dès cette annonce, divergence au sein de l'opposition quant à la participation ou non à ces scrutins. La société civile veut, elle, éviter toute éventuelle violence électorale. De Brazzaville, notre correspondant Gwela Ngoussou fait le point.
À l'opposition, les notes discordantes sont déjà enregistrées alors que les dates du scrutin ne sont même pas encore fixées. Pour Clément Mirassa de la Fédération de l'opposition, regroupant l'IDC, le FROCAD et la composante Jean-Marie Michel Mokoko, il faut d'abord réunir certaines conditions.
Ils ont fait des dialogues, je n'y étais pas. On a parlé de découpage électoral. Il n'y a pas de découpage. Il faut un débat pour qu'on arrive à un bon découpage électoral. Il est anormal que la Bouenza, qui est le département le plus peuplé du Congo, ait moins de circonscriptions électorales que les plateaux, alors que les plateaux ont pratiquement la moitié de la population de la Bouenza. Ce sont des questions qu'il faut regarder froidement.
Mais à la copart de Nick Fila, une autre plateforme de l'opposition, il faut aller aux élections dès maintenant. Le porte-parole de la COPAR, Bonaventure Bounzika, estime que c'est une occasion pour connaître enfin le véritable chef de file de l'opposition.
La COPAR est en train de travailler d'arrache-pied pour obtenir assez de députés, assez de conseillers, pour mériter la confiance du peuple et justement avoir le chef de file de l'opposition. C'est une guerre interne entre nous au niveau de l'opposition. Eh bien, le peuple tranchera. Nous irons aux élections. Nous sommes en train de travailler pour ces échéances. Il ne s'agit pas d'un individu qui sort de chez lui, qui se réclame opposant, qui se réclame ainsi de non.
Ce point de vue est partagé par l'UPADS, la principale formation de l'opposition. À la majorité présidentielle, les choses sont plutôt avancées. Certains candidats se déclarent déjà. Clotaire Didier Boutindi se représentera dans le pool.
Aujourd'hui, l'opposition n'a pas de conditions à poser. Nous devons organiser l'élection en bonne et due forme. Je pense qu'à dans mon avis, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis candidat dans le district de Goma Tété. Je ne suis pas contre le dialogue. Mais quel dialogue? Il y a quoi pour organiser un dialogue? Vous allez faire quel dialogue? Sur quoi on va parler? Parce que c'est ça la question.
Se servant de la triste réalité dans le pool, la société civile attire l'attention des acteurs politiques sur les violences électorales. Luamba Moké est président de la DUC, une ONG locale.
Il ne faut pas qu'il nous montre un théâtre qui n'est pas bon, parce que nous avons la situation du département du pool, que eux, les hommes politiques n'arrivent pas à résoudre. Et alors maintenant, le département du pool donc, va être exclu pour les élections. Et le grand problème, c'est d'abord la paix. Mettre la paix avant que les élections puissent être organisées.
La France a annoncé son appui multiforme à cette série d'élections qui permettront de renouveler cette année les mandats des députés, des sénateurs et des maires de communes. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Togo, le gouvernement donne l'opportunité aux jeunes entrepreneurs qui s'illustrent dans la production locale de communiquer gratuitement sur les médias publics. Les précisions de notre correspondante Kay Lawson à Lomé.
Faire de la publicité sur les médias traditionnels afin de booster son entreprise est une nécessité. Mais pour les jeunes entrepreneurs togolais, cela relève du luxe. Dans un souci d'apporter un appui médiatique à la promotion des jeunes entrepreneurs bénéficiaires des dispositifs et mécanismes d'accompagnement mis en place par le gouvernement togolais, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Communication et celui de l'Emploi des Jeunes. La dite convention porte diffusion gratuite de publi-reportages et de spots publicitaires sur les produits de ces jeunes entrepreneurs. Guy Madié Lorenzo, ministre togolais de la communication, s'adressant aux jeunes entrepreneurs.
Vous produisez, vous êtes jeune, vous ne faites pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. Or, si vous voulez vous développer, vous devez vendre. Vous ne pouvez pas commercialiser si vous ne faites pas du marketing. Il faut faire de la publicité. Mais comment pouvez-vous allier à la fois les coûts de production à ceux du marketing, de la publicité? Parfois, ça peut représenter jusqu'à 20% du budget, ce que vous n'avez pas forcément. Aider les jeunes entrepreneurs dans la publicité et le marketing, ce n'est que booster ces jeunes entrepreneurs. C'est vous qui créez la richesse d'aujourd'hui, c'est vous qui allez créer la richesse de demain.
Cette initiative, comme on pouvait s'y attendre, réjouit les jeunes entrepreneurs.
Cette convention va permettre à nous jeunes entrepreneurs togolais une promotion sur les chaînes nationales. Et ça va nous donner maintenant une opportunité de faire valoir nos produits à travers les chaînes.
Nous pensons que cette convention va booster nos ventes. Et puis nos produits seront beaucoup plus visibles maintenant qu'avant. Donc quand nos pubs passent sur les chaînes télévision et puis radio, les gens vont plus connaître nos produits et vont les consommer.
Cette facilité de communication gratuite sur les médias publics n'est concédée qu'aux startups qui ont déjà bénéficié des mécanismes d'accompagnement du gouvernement. Pour Irène Assiongbon, directrice de Perloria, une TPE spécialisée dans des bijoux en perles, la réflexion doit se poursuivre pour inclure les startups non bénéficiaires de ces mécanismes.
C'est une excellente chose, mais on regrette un petit peu de ne pas être éligible ou en tout cas de ne pas pouvoir bénéficier de quelque chose de similaire lié à notre statut d'entrepreneur, puisque en dehors du fait que nous ne soyons pas allés vers les structures gouvernementales pour nous aider, nous soutenons aussi l'économie de notre pays. Beaucoup plus d'entreprises pourront mettre leur activité à un niveau supérieur, seulement à la condition que le gouvernement crée un cadre beaucoup plus large d'appui.
Les jeunes entrepreneurs togolais ont saisi cette occasion pour égrener une pile de doléances au nom desquelles des exonérations fiscales. Ismaël Tanko, directeur de Team Agro et porte-parole des jeunes à la signature de cette convention.
Les jeunes entrepreneurs proposent une exonération de tout droit de douane
sur l'importation de tout matériel en rapport avec l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Ce que les jeunes entrepreneurs togolais souhaitent, c'est une exonération totale des impôts pendant leurs 3 premières années d'existence, puis un retour progressif au vrai taux.
Selon les responsables des startups au Togo, le packaging, l'accès aux sources de financement et la communication sont les 3 premiers facteurs qui freinent la croissance de leurs entreprises. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.